18h05, toujours 2-1 pour les Américains face à la Russie. On est en troisième période de 12 minutes 10 à faire. Je vous rappelle qu'on est en demi-finale championnat mondial de hockey junior et en soirée à 20h, les Suisses qui vont affronter les Finlandais. Je le sais, le Canada n'est pas là, mais que voulez-vous, on se reprendra l'an prochain. Laure est au bilan et Benoît Brunet est avec nous. Salut Benoît.
Salut Jérémy, comment ça va?
Ça va super bien. Benoît, avant qu'on fasse le bilan de cette mi-saison chez les Canadiens de Montréal, je veux qu'on prenne quelques instants pour revenir sur le match d'hier face aux Canucks de Vancouver. Victoire de 2-0. Carey Price était bon, je pense, dans le match. Je me trompe pas quand je te dis ça, là. C'est incroyable.
Il était excellent. Puis on l'a ménagé en première période du côté des Canucks. Parce qu'il a seulement eu 5 tirs, mais c'est en deuxième. Je sais pas si tu te souviens du match en Arizona, mais moi je trouvais que ça ressemblait beaucoup à ça hier. La deuxième période en Arizona... il avait sauvé le match, puis le Canadien avait gagné ce match-là, puis j'ai vu ça un peu comme ça hier, là, les 17 tirs en deuxième, puis ce qui s'est produit aussi en fin de troisième période, là, les pénalités, l'indiscipline du Canadien a fait en sorte que les Canucks ont passé beaucoup de temps dans le territoire du Canadien, puis c'est une victoire signée Carey Price, c'est pas compliqué, le Canadien n'a pas joué un grand match, n'a pas joué un mauvais match, mais n'a pas joué un... Tu sais, écoute, c'est typique. Puis je l'ai vécu dans ma carrière, là, d'un match quand tu reviens de ce fameux voyage des fêtes.
Ouais.
Le voyage des fêtes a été productif parce que tu reviens de là 4-2. Fait que tu peux, je peux pas dire te permettre. Je vais excuser la performance des joueurs devant Carey Price parce que je sais exactement ce qu'ils ont vécu durant ce voyage-là. Puis c'est le gardien qui a fait le travail à son retour de 3 matchs sans jouer. Puis c'est ça qu'on a besoin d'ici la fin de la saison. Puis c'est pour ça que je pense que le Canadien va être des séries. Quand je regarde les clubs derrière le Canadien, puis les clubs avec qui on va se battre d'ici la fin de la saison, on a le meilleur gardien de but.
Dis-moi, Benoît, là, ça me tente de briser un mythe. Là. On est en 2019 quand on dit, justement, on vient d'un voyage. C'est normal de connaître un mauvais match. Qu'est-ce qui se passe quand t'es joueur? C'est, un, t'es fatigué, t'as la besogne à la maison à faire, t'es moins concentré. Qu'est-ce qui arrive?
Ben, je te dirais, c'est plus l'aspect mental qui... c'est dur à expliquer. Pour l'avoir vécu, surtout quand t'as des enfants. Parce que, veut pas, là, le temps des fêtes, c'est familial, puis on a toujours vécu ça dans notre jeunesse, puis moi, écoute, c'est encore pire que ça, là, tu sais, nous autres, on partait souvent avant les fêtes, puis après ça, on revenait seulement le 4 ou le 5 janvier. Ça, je l'ai vécu, décollé le 26, puis tu revenais le 5 janvier, puis après ça, le premier match, quand tu reviens à Montréal, là, tu sais, t'as hâte de revenir d'un long voyage. Là, il était pas si mal, là. Ils ont passé 3 jours entre Noël et Jour de l'An sur la route, mais, tu sais, tu laisses ta famille, tu laisses ta femme, tu laisses tes parents pour ceux qui font venir leurs parents, puis des fois, c'est les frères, puis tout ça, puis là, tu reviens à la maison, puis là, écoute, t'as un bon voyage, 4-2, puis là, il y a un genre de laisser-aller qui se fait, qui est tout à fait normal. Tu sais, les joueurs sont humains, puis aujourd'hui, on associe beaucoup le salaire des joueurs, puis faut qu'ils soient professionnels, puis ils sautent sur la glace, puis lui, il gagne temps, puis lui, il gagne temps. Ouais, mais tu sais, il y a le côté humain qui rentre en ligne de compte aussi. Puis ça, faut jamais l'oublier. Puis les gars se préparent. C'est pas parce qu'ils veulent jouer de cette façon-là, mais il y a un petit laisser-aller. Puis je suis convaincu que pour le match de samedi, puis Claude Julien va mettre de l'emphase là-dessus, t'affrontes Nashville, une bonne formation dans l'innocent, va dire les boys, là. T'sais, on se réveille, on part, puis c'est reparti. Puis c'est ça la beauté du hockey, c'est que c'est un sport d'équipe, mais il y a un joueur qui a fait la différence hier, ça a été Carey.
Oui, c'était Carey Price. Aujourd'hui, encore une fois, il a attiré l'attention, a quitté l'entraînement plus rapidement,
ouais.
Se sentait pas bien. Et Benoît, si tu le veux bien, là, pour les auditeurs qui viennent de se joindre à nous, on va faire entendre les propos de l'entraîneur-chef, Claude Julien, qui a parlé justement du fait de voir Carey Price qui quitte justement l'entraînement. On écoute.
Oui, il a quitté la glace seulement pour la raison que ça n'a absolument rien à faire avec la petite blessure qu'il avait. Là. Je te dirais, c'était plus... Je connais pas le terme français « lightheaded » parce que je sais que c'est pas étourdi, mais c'est la raison qu'on lui a laissé débarquer de la glace parce qu'on avait plus ou moins fini la pratique. On faisait des face-offs, là, puis alors on lui a donné l'occasion d'aller se reposer.
Rien pour s'inquiéter, Benoît? Ah,
je le souhaite. Je le souhaite. Mais tu sais, le point positif dans tout ça, c'est que Niemi était très bon à Dallas.
Ouais.
Ça, c'est réconfortant un peu, puis c'est pas de lui aussi en deuxième période à Dallas, le Canadien gagne pas ce match-là. Fait que au moins, les gardiens ont fait le travail pour les deux derniers matchs, puis on espère que, écoute, quand tu vois tout ce qui se passe dernièrement, puis les antécédents, les blessures aux genoux, tu dis toujours, écoute, est-ce que ça va revenir? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grave, puis ils veulent le cacher un peu? Écoute, c'est eux à l'interne qui savent exactement ce qui se passe, mais écoute, pour moi, là, quand je regarde comment Carey a gardé les filets hier, puis depuis son match contre les Flames de Calgary, il y a déjà un bon petit bout de temps, là. Tu sais, c'est le Carey Price qu'on devait avoir en début de saison, qui n'était pas là, puis écoute, ça arrive, ça aussi, là. Ça fait partie du hockey, puis du sport professionnel. Mais il reste que si Carey continue à garder les buts-là, les buts de la façon qu'il les garde présentement, c'est que tu vas toujours avoir une chance de gagner. Puis dans les fameux matchs de trois points, quand ton gardien garde bien les buts, parce que tu sais, les Canucks, c'est pas une puissance, là. Mais tu sais, contre Nashville, s'il garde bien les buts, puis il est en santé pour le prochain match, si tu gagnes pas, t'as peut-être une chance d'aller chercher un point. Puis c'est ça que les Canadiens ont besoin, parce que tu regardes les résultats des matchs hier, les Islanders ont gagné, les Sabres de Buffalo ont gagné sans Jack Eichel. Derrière eux, là, la Floride, Philadelphie, tous les clubs derrière eux, ça m'énerve pas, mais les Islanders puis les Sabres, je pense qu'ils vont être dans le coup d'ici la fin de la saison, sur une bonne lancée, comme le Canadien. Ça va être intéressant à suivre. Puis si Carey continue à garder les buts comme il le fait, ben moi, je pense que, tu sais, quand je regarde ce qu'il y a à Buffalo, tu sais, Hutton, c'est Ullmark le second. Après ça, tu regardes Grice puis Leonard du côté des Islanders de New York. Mais à la fin de la saison, si on a besoin de points, puis si notre gardien est sharp, ben j'ai pas mal plus confiance en Price que les autres.
Oui, là, le Canadien, c'est la dernière équipe repêchée avec un total de 49 points en 41 matchs. Et les ouais. Islanders ont 48 points en 39 matchs qui suivent de près.
Des matchs en main aussi. Hein?
Exact, c'est ça. C'est deux matchs en main sur le ça. Canadien de Montréal. Et t'as raison, pour les autres, là, les Rangers, 41 points, là, ça commence à être beaucoup là, pour revenir. Même chose pour la Floride, les Hurricanes, 39, les Devils, 37, le reste, je pense que ça commence à être loin. Ça devrait jouer, comme tu le mentionnes, entre les Islanders, le Canadien de Montréal, Buffalo et Boston. Là. C'est là-dedans ouais, que ça devrait tourner là, à peu près. Là.
À moins d'un revirement là, incroyable d'un club, comme les Panthers l'ont fait l'an passé, mais ils ont quand même raté une série par un point à la fin. Là.
Okay.
Mais bon. Faut que tu passes une séquence incroyable là, pour revenir. Là. Quand faut que tu dépasses 3, 4, 5 clubs, là, c'est pratiquement impossible à faire.
Mais tu sais, il faut être une bonne séquence, mais il faut que ça tombe en même temps aussi que les autres équipes que tu pourchasses connaissent des mauvaises séquences en même temps.
Ouais. Comme là, hier, tout le monde a gagné. Les Canadiens ont gagné, mais tout le monde a gagné. Là.
Exact.
Je parle des clubs qui sont proches de nous. Là.
Bon, Benoît, allons, c'est l'heure du bilan. 41 yeah. matchs, 22 victoires, 14 défaites, 5 défaites en prolongation. 49 points. Alors là, tout le monde a parti le recordeur. On t'écoute. Explique-nous, Benoît, comment ça se fait que le Canadien surprend comme ça?
Écoute, je pense que, le changement d'attitude que Marc Bergevin, parce que ça, écoute, c'était ciblé, là, la façon qu'il voulait se comporter au point de presse l'an passé. Il savait exactement ce qu'il voulait faire. Puis ça, c'est pas juste le DG. Ça, c'est à l'interne, avec l'entraîneur, qu'on savait qu'il était pas être de retour. Il y avait du ménage à faire au niveau du vestiaire, on l'a fait. Puis on a fait des changements, puis le dernier, il a été tard parce qu'il s'est arrivé au tournoi de golf, la veille du tournoi de golf dans le cas de Pacioretty. Puis Galchenyuk, ça s'est fait un peu plus tôt. Puis on a amené des joueurs, puis le point d'interrogation, mais on savait pas si ces gars-là étaient pour produire. Puis là, Domi, il arrive, il est le premier joueur de centre du Canadien, il produit. Tatar, écoute, on savait pas trop ce qui était pour arriver parce que ça avait mal fini pour lui à Vegas l'an passé, mais c'est un gars qui nous avait prouvé qu'il était en train de marquer des buts. Il joue bien. Fait que pour moi, là, ça part de là. Puis après ça, le changement aussi... Le changement drastique aussi au niveau de la façon que le club doit se comporter pour avoir du succès dans la Ligue nationale. Puis les changements ont été faits derrière le banc. Il y a des gars qui ont quitté. Puis on a amené d'autres gars. Puis je parle là, du change. Je parle de Richardson qui est très calme avec ses défenseurs. Ça, je pense que c'est vraiment important. Puis le fait qu'on a décidé de jouer un style peut-être un peu plus ouvert, qui nous fait mal apparaître certains soirs, mais qui fait en sorte qu'on a du succès parce qu'on a des joueurs qui sont rapides, qui patinent. Puis il y a un niveau de confiance, puis il y a un style qui joue dans la Ligue nationale présentement qui est difficile à analyser. J'en ai parlé avec Carbo hier, j'en parle avec Carbo depuis longtemps parce que, écoute, j'ai dit à Carbo de te coacher dans cette ligue-là. Fait, aujourd'hui, là, il y a tellement de jeunes dans la Ligue nationale qu'il faut que tu vives avec les erreurs.
Exact.
Si t'es pas prêt à vivre avec les erreurs comme organisation, tu passeras pas parce que là, tu vas trop crier puis chialer après tes joueurs. Fait que je pense qu'on accepte les erreurs. On a un style de jeu qui est complètement différent de l'an passé. Les gars sont à l'aise à jouer dans ce style-là, puis c'est payant. Ils ont du plaisir à jouer.
Je regarde, là, honnêtement, là, tu sais, si on prend le style de jeu d'aujourd'hui, on transporte ça, on transporte le tout dans ton temps, Benoît, l'entraîneur, il vient complètement fou, là. C'est du run and gun. On attend à deuxième ligne bleue, quasiment à la ligne rouge. Le seul but, c'est d'aller dans le territoire adverse. Défensivement, c'est de prendre possession de la rondelle, puis on s'en va dans l'autre territoire le plus vite possible.
C'est ça. Il y a encore quelques clubs dans la ligue qui sont capables de le faire, là, mais il n'y en a pas beaucoup, là. Mais dans tant que j'ai joué au hockey, là, Vegas, on serait pas revenu. Puis Dallas, on serait probablement pas revenu. Ça arrivait une fois de temps en temps, puis c'était comme une surprise. Hey, on est revenu de l'arrière.
Mm-hmm.
Ça, habituellement, là, un but, deux buts, le match était terminé. Des fois, 2-0, après 10 minutes dans le match, c'était terminé. Pourquoi? Parce que les règlements faisaient en sorte que tu sois accroché, tu vas jouer la trappe, il y avait une ligne rouge, il n'y avait pas d'espace. Puis les règlements faisant, écoute, ça, je reviens encore là-dessus. Quand tu veux accrocher dans le temps, on faisait pratiquement du ski nautique en zone centrale. Fait que, quand t'accrochais ton gars, tu le gardais quasiment jusqu'au filet. Fait que c'était beaucoup, beaucoup plus difficile de s'exprimer. Aujourd'hui, ça patine, il n'y a pas de ligne rouge, les gars sont toujours en mouvement. Fait que c'est un club rapide qui est talentueux, puis qui veut travailler, parce qu'il y a ça aussi, là, le Canadien, là, on dira ce qu'on voudra, les gars viennent pour jouer, ils travaillent. Puis c'est pas toujours parfait, c'est jamais parfait dans un marathon de 82 matchs, mais quand tu regardes la majorité des matchs canadiens, oui, ils ont eu des périodes creuses, le match au Minnesota, puis ils ont eu des matchs où ça n'a pas bien été, mais c'est un club qui abandonne jamais. Puis l'an passé, c'était tout le contraire. On marquait un but, on se faisait marquer un but, on en donnait un deuxième rapidement, puis les gars, la tête penchée, les épaules baissées, puis le match s'est terminé. Ça, c'est complètement changé dans la dynamique du Canadien. Ils tirent l'arrière, ils continuent à travailler, on roule les trios, on joue au hockey, puis ça, c'est vraiment intéressant.
Benoît, l'attitude, t'as raison. Et j'allais ajouter, faut peut-être donner un petit coup de chapeau aussi à Marc Bergevin.
Ah, ben oui. Oui, bon, ben oui. Écoute, c'est sûr que c'est un processus qui devait être fait, mais c'est encore un processus à long terme. Tu sais, aller chercher Domi, là, moi, j'étais un de ceux qui disaient que c'était une bonne transaction. Dans le cas de Patrick, j'étais un petit peu plus nerveux, mais j'ai dit, c'est qui va remplacer ces buts-là?
Ouais.
Suzuki n'a pas eu un grand championnat du monde junior, mais Tatar fait le job. Puis tu débarrasses d'un problème. On dira ce qu'on voudra, mais c'est ça quand même. Mais il reste qu'il a pris un risque en repêchant Kotkaniemi, puis il s'est pas trompé. Fait que là, il a fait confiance à son intuition ou à quelqu'un dans le système qui a dit, ça nous le prend. On a un besoin au centre, on le repêche, on va chercher un jeune, puis on l'amène, puis il fait le club. Ça, c'est vraiment intéressant. Fait que c'est le processus, il est parti. Et on est-tu rendu où on veut être? Mais en tout cas, dans mon cas, à moi, là, mon analyse à moi, non. Mais on s'en va dans la bonne direction, puis c'est ça le changement là d'attitude, puis de thinking, excuse l'expression, là, qu'on a fait dans l'organisation, on disait, hey, non, c'est pas comme ça qu'on va jouer au hockey, c'est pas comme ça qu'on va gagner. On a une équipe qui est jeune, qui est dynamique, puis à long terme, pour rivaliser avec, je mettrais pas Boston là-dedans, là, mais pour rivaliser avec Boston, mais pour rivaliser avec Tampa, puis Toronto, là.
Si tu mets pas Boston dans la comparaison, mets pas Tampa, puis mets pas Toronto non plus, ils sont dans une tasse à part, là.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que Boston, ils ont un noyau encore de vétérans
okay.
qui ont ajouté des jeunes. Mais j'ai écouté le match hier, en revenant à la maison hier, Jérémy, j'ai écouté une partie du match, là, Tampa, LA, là.
Ouais.
Si on avait joué contre LA hier, contre Tampa hier, on gagnait pas.
Ah non, clairement.
Écoute, Tampa, là, c'est une machine de hockey.
Non, mais ils sont d'une classe à
part. On n'est pas rendu là encore.
D'après moi, faudra faire des tests d'ADN. D'après moi, c'est des extraterrestres, honnêtement. 66 points, là, je suis pas mal sûr que c'est des extraterrestres. Benoît, si tu le veux bien, on va faire une courte pause. Et là, prépare-toi, parce que au retour, c'est la chronique dans la boule de cristal de Benoît Brunet. OK? Je te lance des sujets et tu me dis ce que tu vois dans ta boule de cristal. Donc, sors ton affiliation avec Mme Minou pour au retour. On va voir ce que tu penses de l'avenir chez le Canadien. On fait une courte pause d'écouter les amateurs de sport. 18h20, troisième période, 3 minutes à faire en troisième. Toujours 2-1 pour les Américains sur la Russie. C'est match de demi-finale. La Suisse affronte la Finlande à compter de 20h. Bon, Benoît, j'espère que tu t'es préparé pendant la pause parce que c'est maintenant dans la boule de cristal de Benoît Brunet. Écoute, hein, on a sorti le budget quand même. OK, sois prêt. OK, qu'est-ce qui arrive dans la deuxième moitié de saison? Carey Price, est-il meilleur, est-il moins bon ou est-il blessé?
Il va être aussi bon. Il est prêt, il est reposé. Puis non, je pense qu'il va être en santé, il va rester en santé. Puis il va être aussi bon. Est-ce qu'il va être aussi spectaculaire qu'il a été hier? Non. Mais il va être aussi bon. Il va être meilleur qu'il a été en début de saison, puis il va être aussi bon qu'il l'a été dernièrement.
Et toi, les blessures, t'enlèves ça, tu mets ça de côté, tu penses qu'il va être capable de terminer la saison en santé?
Oui, mais il faut que Niemi fasse le travail. Ça va peut-être y prendre une couple de journées de repos, peut-être de plus, qu'on avait prévu en début de saison, mais moi, je pense qu'il va finir en santé, puis c'est lui qui va faire la différence. Le Canadien va se classer en série.
OK, parfait. Le duo Drouin-Domi. Est-ce que le duo explose ou s'essouffle?
Moi, je pense que ça va continuer comme ça s'est fait depuis le début de la saison. C'est sûr que, tu sais, si on regarde dernièrement, ils ont un peu ralenti. Mais ce que j'aime de Domi, c'est qu'il est visible autant au Centre Bell que sur la route. Je pense que dans le cas de Jonathan, je parle pas de statistiques, je te parle de visibilité, de présence. Ça, je pense que Jonathan, sur la route, il faut qu'il améliore ça. Il faut qu'il soit un peu plus présent, un peu plus impliqué sur la route. Hier, j'ai trouvé qu'il avait joué quand même un bon match, malgré que le Canadien a peut-être pas joué son meilleur. Il patinait, il était en contrôle, il était sur la glace, je le voyais. Sur la route, c'était un peu plus difficile pour lui. Puis ça, c'est une facette du jeu qui est vraiment importante. Parce que si le Canadien se positionne, participe aux séries, il faut que tes meilleurs joueurs soient bons sur la route. T'sais, c'est une chose d'être bon à la maison, mais sur la route, il faut que tes gars soient présents. Moi, je pense qu'ils vont continuer à produire. Ils ont une belle chimie entre ces deux gars-là. Puis Domi, ben c'est la clé sur ce trio-là, parce qu'il joue bien dans les deux sens de la patinoire. Je pense que ça va se poursuivre.
Quand même, dans le cas de Drouin, là, atteint son total de buts de l'an passé, 13 buts, 20 passes. Et dans le cas de Domi, c'est 14 buts, 24 passes du côté de Max Domi. OK, attention dans ta boule de cristal, Benoît. Est-ce que Brendan Gallagher va atteindre le plateau des 30 buts cette saison?
Pas s'il continue à bloquer des lancers comme il l'a fait hier.
Oui, hein, c'est pas une bonne...
J'étais avec Carbo hier, je lui ai dit, tabarnou, j'ai encore mis la main pour bloquer son tir. Garde les mains sur le long de ton corps, cache-les derrière ton dos, je sais pas comment est-ce qu'il va faire ça. Puis je comprends ce qu'il veut faire, là, je le comprends. Tu sais, lui, c'est action-réaction. Mais s'il veut rester en santé, puis c'est ce qui me fait le plus peur pour lui, là, c'est que lui, j'ai peur pour une blessure de la façon qu'il se comporte sur la glace. J'ai toujours peur pour qu'il y ait une blessure qui arrive parce que il est tellement impliqué. Tu sais, là, hier, il y a eu une présence, c'était en troisième période, là, qu'il a déjoué deux, trois gars, là. Mais c'est pas fait avec beaucoup de vitesse. Ça s'est fait avec beaucoup d'éclat, mais pas beaucoup de vitesse. J'ai toujours peur qu'il se fasse pincer.
Ça se fasse frapper solidement, là.
Mais c'est un gars qui est à risque, mais s'il y a un gars qui est encore capable de marquer 30 buts, c'est lui. Pourquoi? Parce que tu te poses jamais de questions. Dans un mauvais match, il est visible. Dans un mauvais match, il peut t'en marquer deux, parce qu'il est toujours là devant le filet, puis ses buts, il marque à un pied et demi du demi-cercle bleu. C'est pas compliqué, il est toujours là, puis c'est pratiquement tout le temps là qu'il marque. De temps en temps, il va en marquer une dizaine de pieds, là. Mais la majorité de ses buts, il marque à deux, trois pieds dans le demi-cercle. Fait que c'est un gars qui est impliqué. Fait que lui, s'il y a un gars qui est capable de répéter ses exploits de l'an passé, c'est lui s'il reste en santé, mais j'ai une petite crainte pour lui.
15 buts, 9 passes pour Brendan Gallagher. Et je me permets un commentaire, puis dis-moi ce que t'en penses. Je regardais le match hier, là, et on sent la frustration quand il ne marque pas. Là. On sent que lui, son objectif, c'est il veut la mettre dedans. Ça, c'est son but premier. C'est clair, net et précis. Par moment, j'ai l'impression qu'il va prioriser beaucoup, beaucoup le lancer au lieu d'avoir peut-être une option de jeu collectif. Ouais. Tu trouves-tu ça?
C'est vrai. Mais là, ça fait... Écoute, ça aussi, là, on en parlait hier. Je pense qu'il y a 2 buts à ses 10 ou 11 derniers matchs.
Ouais.
Fait que c'est ça. Mais ça, c'est typique de la majorité des gars qui sont là pour marquer des buts. Même si c'est pas un marqueur naturel à la Pacioretty, là, ou à la Ovechkin, là, il en a quand même marqué plus que 30 l'an passé. Il marque différemment que ces gars-là, là. Il marque de près. Mais c'est sûr qu'il y a un stress additionnel. Tu veux trop contribuer. Fait que des fois, tu prends des décisions. Lekkonen, je le trouve comme ça, des fois aussi.
Ouais.
Lekkonen, là, il va décocher des tirs, des fois, derrière le filet. Il y a pas d'angle. Il s'aligne des buts. Ça va arriver une fois de temps en temps. Tu vas tomber sur une séquence où, dans 2, 3, 4 matchs, tu vas en marquer des buts comme ça. Tu sais, le fameux wraparound, ça. Mais dans l'ensemble des marathons de 82 matchs, ça ne fonctionnera pas toujours. Fait qu'il faut que tu utilises les gars autour de toi. Mais il reste que lui, c'est un gars aussi par séquence. Tu sais, il travaille tellement fort qu'à un moment donné, ça va débloquer dans son cas.
OK. Autre révélation qu'on a besoin du grand boubou Benoît Brunet. Jesperi Kotkaniemi, qui a 4 buts présentement. OK?
Oui.
4 buts. Termine la saison avec moins de 10 buts ou plus de 10 buts?
Plus de 10 buts.
Oh!
Oh oui. Il est pas chanceux dernièrement, là. Tu sais, les poteaux en Floride, hier, il y a eu encore deux, trois bonnes opportunités là, de décocher des tirs. Ça va rentrer. Ça va débloquer pour lui, je suis convaincu. Mais dans le même rôle qu'il joue là. Parce qu'on l'utilise en avantage numérique sur la deuxième vague. Fait qu'il va avoir des opportunités, ça c'est sûr. Puis à 5 contre 5, ils ont quand même un trio qui est potable. Fait que moi, je pense que ça va débloquer dans son gars. Il va acquérir encore un petit peu plus d'expérience. Je regarde sur les mises en jeu. C'est vraiment amélioré de ce côté-là. Puis c'est un gars, là, que la rondelle colle sur son bâton. T'sais, peu importe ce qu'il fait là, sur la glace, Pedersen, avant qu'il se blesse, hier, je le regardais, là, c'était un peu pareil. Ils sont toujours bien positionnés. La rondelle, elle colle. Il déjoue un gars. Puis là, tu te dis, bon, c'est sûr qu'il va la perdre. Pouf, la rondelle est encore là. Puis elle le suit. Puis là, elle est proche. Puis elle est dans ses patins. Puis bang, il la ramène. Non, Kotkaniemi. Moi, je pense que c'est une valeur sûre. Je ne sais pas à quel niveau il va devenir je sais pas si ça va devenir un joueur de premier plan, mais il reste que pour moi, 6 buts pour lui d'ici la fin de la saison, s'il reste en santé, c'est facile.
Juste te dire, tu me parles de Pedersen, là, dans le match hier, avant sa blessure, en première période, il a décoché un lancer sur réception. Écoute, y a-tu un lancer, ce gars-là? C'est incroyable.
Il a un lancer.
Hein?
Il a un lancer, puis il a une vision, tu sais.
Ah oh.
il y a des gars que tu regardes jouer. Tu sais, McDavid, c'est la vitesse, c'est la visibilité. Là, je l'ai regardé encore hier, puis je l'ai regardé jouer souvent Pedersen depuis le début de la saison parce que c'est un joueur spécial. Je sais pas s'il va être capable de maintenir ça l'an passé. Tu sais, l'échantillon, il est mince. Mais quand tu regardes ses chiffres, la façon qu'il se comporte, puis arrêter des matchs en début de saison parce qu'il était blessé, une petite commotion, là, contre les Panthers de la Floride, tu te dis, là, ce gars-là, là, il y a quelque chose de spécial. Parce que lui, là, la passe qu'il a faite à Barchi avant qu'il se blesse, là, quand il est rentré là, à la droite de Carey Price hier, là, combien de joueurs auraient continué à patiner et auraient décoché leur lancer? Lui, là, avant qu'il reçoive la rondelle son bâton, là, Jérémy, là, il savait que Barchi était là et qu'il était libre. C'est ça sa grande force. Fait qu'il y a un tir incroyable, comme tu l'as mentionné, mais une vision qui est vraiment au-dessus de la moyenne. Parce que lui, là, sa passe, là, il ne fait pas quand la rondelle arrive son bâton. La passe, ça se fait avant que la rondelle arrive.
Il a pris sa décision
avant. C'est Gretzky, tout le monde me disait, ben lui, c'est 2-3 passes avant que la rondelle arrive. Ben Pedersen, je ne le mets pas dans la même catégorie que Gretzky, Jérémy, mais je le mets dans une catégorie supérieure à 80-90% des joueurs de Ligue nationale.
OK. Non, mais c'est exceptionnel. Ce que j'ai vu hier, c'était exceptionnel. Oh, avant sa blessure. Puis tu sais quoi? J'ai trouvé ça bien le fun que Kotkaniemi aille le voir pour s'excuser. Ah, excuse-moi. Tu sais, c'était les gars sont coltaillés un peu, tombés, mal tombés. Ils se blessent au genou. Le jeune va le voir. C'est rafraîchissant, honnêtement, de voir ça.
Ben oui. Dans le fond, là, Kotkaniemi aurait dû avoir une pénalité sur le geste initial. Parce qu'il l'a accroché, parce qu'il savait c'était qui en avant de lui. C'était juste en avant de moi. Il a sorti le crochet parce qu'il voulait pas l'échapper, parce qu'il savait exactement ce qui s'en venait, là. C'est que lui, il repartait de l'autre côté, puis il voulait pas se faire battre. Mais après ça, ben là, ils sont pognés, ils sont entremêlés, puis là, c'est là que c'est arrivé. Le geste, c'était pas vicieux, c'était pas salaud de la part de Kotkaniemi, mais il aurait dû avoir une pénalité sur le geste initial.
Oh, pas en tout, je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Il y a pas de deux là-dessus. Come on, ref! Il y a pas de deux là-dessus!
Le crochet pour le retenir, ah oui, il y a 22.
Aye, arrête, là. Toi, t'es issu des années 90. Lance-moi ça l'histoire du crochet.
C'était juste normal.
À deux mains, en train de faire du skidoo en arrière.
OK. Du ski nautique,
exact. OK, dans la boule de cristal de Benoît Brunet, puis on va terminer là-dessus. Attention, ça, le dernier, là, c'était un solide. Je pense que ça prend encore un thème. Excuse-moi, là. Vas-y, attention. OK. Dans la deuxième moitié de saison, Marc Bergevin, est-ce que ce dernier va sacrifier son avenir pour améliorer son présent?
Non. Non, pas du tout. La seule chose, il faut qu'il trouve un défenseur pour jouer avec Shea Weber. C'est la seule façon que je pourrais sacrifier de l'avenir. Mais de l'avenir, ça veut dire quoi? C'est sûrement pas Kotkaniemi, Poehling, Suzuki. Moi, je commence avec ça, je touche pas à ça. Des choix repêchage, si t'es capable d'aller récupérer un gars, pas un joueur de location, là. Si t'es capable d'aller récupérer un gars que tu sais qu'il va jouer pour toi pour les 5-6 prochaines années, ou t'es capable d'aller chercher un joueur à la date limite des transactions qui est agent libre sans restriction, mais t'es capable de le mettre sous contrat avant que la transaction soit faite, oui. Mais je sacrifie pas l'avenir quand je regarde ce qui se passe à Toronto pis t'aimes pas présentement, puis je te dirais, je pourrais ajouter Boston. On n'est pas rendu là encore. Mais à court et à long terme, avec le Canadien, ça prend un joueur de défense. En attaque, je pense qu'on peut vivre avec les gars qu'on a là. Puis si t'es capable d'aller chercher des joueurs de ce côté-là aussi, tu peux le faire. Mais ça prend assurément un joueur de défense pour jouer avec Shea Weber. Okay. Je sais pas ce qu'il va faire pour le trouver.
Ce que je comprends, ce que tu me dis, c'est que la compétition est tellement élevée du côté de la division Atlantique qu'au lieu d'hypothéquer ton avenir pour améliorer ton présent, t'es mieux d'être patient et laisser le tout progresser, c'est ça?
Oui. Si on veut se bagarrer que t'aimes pas, puis Toronto, des prochaines années, tu peux pas sacrifier ton avenir. À moins que tu me dises demain matin qu'il y a un Rantanen, qu'il y a un McKinnon, qu'il y a un Connor McDavid, un Matthews disponible, mais ils seront pas disponibles. Tu sais, les joueurs de premier plan, là, il y en aura pas. Tu ramasses les problèmes d'un, puis tu donnes tes problèmes à l'autre. Puis écoute, dans la transaction de Galchenyuk, c'est un peu ce qui est arrivé, mais Domi, tu sais, ressort grand gagnant de cette transaction-là. Puis je pense qu'on oublie que ce gars-là avait eu plein de 50 points, puis c'est un guerrier. Puis je pense qu'il y a des gens qui ne l'avaient pas assez vu jouer, Domi. Mais au niveau de la production, je ne savais pas. Mais au niveau de l'implication, je savais ce qu'il était pour faire avec l'équipe. Parce que je savais que c'était un guerrier qui était pour se présenter pour jouer au hockey. Galchenyuk ne le fait pas, puis il ne le fait pas en Arizona plus. Fait que c'est ça, là, présentement, le dilemme que Marc a. Puis il n'est pas fou, là. Il regarde les matchs, puis il regarde les autres matchs comme nous, on le fait, là. Quand tu regardes Tampa et Toronto, ça va être très dur de rivaliser. Puis quand je regarde les quatre trios du Canadien, je peux vivre avec ça présentement, à court terme, pas à long terme. Mais à court terme puis à long terme, si t'as pas un gars pour jouer avec Shea Weber, on est dans le trouble. Tu sais, t'arrives là, Stamkos, Kucherov, Pointe, Palat, on rentre en série contre eux autres, là. Puis Kadri comme joueur de centre, puis Matthews, puis Tavares, là. M'a dit une affaire, là, les gens, des fois, ont la critique rapide, là. Mais Shea Weber va avoir plein de culottes s'il est obligé de jouer avec Mété ou avec Kulak ou avec Schlemko dans les séries.
Il va trouver que ça passe vite. Et il va surtout trouver qu'il est souvent demandé pour aller donner un coup de main en quelque part dans le territoire du Canadien.
Tu sais, il faut être réaliste aussi quand on fait nos analyses. T'sais, je le regardais depuis qu'il est là, depuis qu'il est de retour avec le Canadien joue beaucoup mieux défensivement. Mais tu as vu le match comme moi, tu étais au Centre Bell hier. Là. Kulak, là, il m'a emmené en deuxième période. Là.
Oh, t'as pas facile.
Hein?
T'as pas facile.
C'est ça. Fait que c'est incroyable ce que le Canadien a réussi à faire avec le nombre de défenseurs qu'on a utilisés depuis le début de la saison.
Benoît, écoute, ce fut très bien. Si jamais tes prédictions s'avèrent réelles et authentiques, à la fin de l'année, on va s'acheter un 649 ensemble parce que tu seras le grand bobo Benoît Brunet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Benoît.
Hey, merci, Jérémy, ça m'a fait plaisir.
Merci, et voilà. Salut, Benoît, à la prochaine. Salut. On s'arrête quelques instants et au retour, c'est week-end wild card du côté de la NFL, des matchs forts intéressants. On en parle avec Bruno Eppel. Voilà.